Amen. Gloire à Dieu. Seigneur est bon. Merci encore pour le privilège d'être avec vous à soir. Et puis, ce soir, on va regarder dans Éphésiens 6, un verset ou un passage de la parole de Dieu qui est un petit peu en lien avec ce qu'on a partagé ce matin, dans le sens qu'on est sur un chemin de pèlerinage, amen, jusqu'à ce que on entre dans l'éternité. Et puis, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile, mais Dieu est avec nous. Et à ce soir, on va regarder à certaines armures ou armes qui sont à notre disposition, les armes de Dieu, dans le fond. Éphésiens 6, 11 à 17. Et je vais être complètement transparent, ce n'est pas une étude exhaustive sur le sujet. C'est vraiment un partage que je veux faire, je veux échanger avec vous autres, je veux faire ça en lien avec une préparation que j'ai déjà faite pour une marche à longue distance, puis je veux faire un lien avec ça, un parallèle avec ça, pour nous donner peut-être des petits trucs pratiques d'envie pour suivre le Seigneur. Amen. Donc, Éphésiens 6, 11 à 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Et ce matin, on disait que la chair, oui, il faut lutter contre, mais ici, la chair, c'est les gens qui pourraient nous faire du mal. C'est pas contre eux qu'on doit s'en prendre, c'est contre celui qui les motive à nous faire du mal. C'est ça. Et le sang. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Seigneur, on te remercie pour cette parole encore inspirée par le Saint-Esprit. Je te prie qu'elle puisse nous guider, nous encourager, nous fortifier. Et dans le nom de Jésus, on dit. Ce matin, je vous avais demandé, je ne sais pas si vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, c'est correct. Si vous ne l'avez pas fait, c'est correct aussi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont choisi une de ces armes, qui aurait un petit témoignage à dire sur cela? Un petit témoignage de quelques secondes. Sonia, oui, vas-y. Sur un des armes de Dieu qui vous a été utile dans votre vie. Être moins. Amen, mais je vais y aller. Évidemment, en tant que chrétien, hein, c'est notre objectif primaire, c'est de maintenir la foi jusqu'au bout. Puis Paul, vraiment, l'apôtre Paul, nous donne un bon exemple de ça. Quand il dit dans 2 Timothée 4, 7 et 8, il dit « J'ai combattu le bon combat. » Qu'est-ce qu'il a fait? « J'ai achevé la course. Je me suis rendu jusqu'au bout. J'ai gardé la foi. Hein? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous aimez son avènement? Est-ce que vous avez hâte à son avènement? Maintenir la foi, garder la confiance dans son œuvre sur la croix pour notre salut, c'est la garantie qu'on va recevoir un jour notre diplôme de la part de Dieu et qu'on va entendre les paroles puissantes suivantes « Entre dans ma présence, bon et fidèle serviteur ». Mais vraiment, quand on y pense, l'engagement de suivre le Seigneur, c'est un engagement qui est vraiment unique en son genre. C'est vraiment unique. Parce que contrairement à tous nos autres engagements, cet engagement-là, c'est pour toute notre vie. Quand tu y penses, on s'engage pour nos études pour 15-20 ans. Hein? On s'engage pour notre employeur ou un emploi pour 30, 35, 40 ans. On s'engage envers notre banque pour rembourser notre hypothèque pour une période de 15, 20 ans. On s'engage de servir sur un comité pour un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Puis là, on arrête, tu sais. Mais notre engagement envers le Seigneur, c'est pour la vie. C'est du jour de notre salut jusqu'au jour de notre départ dans la maison céleste. C'est un grand engagement. Ça prend beaucoup de persévérance. Il ne faut pas lâcher. On ne voit pas le bout du tunnel parce que, ce n'est pas vraiment un tunnel malheureux, mais on ne voit pas le bout parce qu'il n'y a pas de date limite. On ne sait pas quand est-ce que notre engagement va finir, mais il faut qu'elle dure jusqu'à la fin. Et comme je vous ai mentionné ce matin, en septembre 2022, moi, je suis parti pour 23 jours. J'ai été marcher en Espagne, on a marché 400 km. Puis, dépendamment de votre condition physique, ça peut être beaucoup, ça peut être peu, je ne sais pas. Mais ce qui importe, c'est la chose suivante, c'est que peu importe l'objectif qu'on veut atteindre ou réaliser, ça nous demande de la préparation. Puis une fois qu'on est prêt, bien, on doit persévérer pour se rendre jusqu'au bout, malgré les embûches. J'avais fait ça aussi en vélo en 2007. On avait fait 1000 km à travers l'Espagne. En 2010, j'ai fait de la Compostelle avec mon épouse Francine. Puis en 2022, je l'ai fait seul avec un ami. Mais en 2010, puis en 2022 aussi, mais en 2010 particulièrement, on a eu du bon temps pendant ce temps-là. Évidemment, le pèlerinage de Compostelle, pour vous l'expliquer sans vous donner trop de détails, ça a été fondé dans les années 800. Puis à l'époque, l'Église romaine, a envoyé son monde à Saint-Jacques-de-Compostelle parce qu'apparemment, il y aurait le tombeau de Saint-Jacques qui serait là. Et puis là, on les envoyait là, on les faisait marcher en direction opposée au soleil pendant tous ces kilomètres-là. Ils allaient faire le pénitence, puis là, parce qu'ils avaient fait le pèlerinage, ils avaient souffert, etc., ils marchaient en petites chaussettes de cuir, tu sais, que c'est comme monter des escaliers à genoux, vous connaissez la religion. Là, ils pouvaient finalement se retourner et voir le soleil. Le péché était pardonné. Mais ce qui est plate, c'est qu'ils font pour un tombeau qui est plein. Nous, notre pèlerinage, on le fait à cause du tombeau qui est vide. Il est vide. Et pendant ce pèlerinage-là, par contre, on a eu du bon temps. Il y avait un homme religieux qui faisait les pratiques religieuses, puis je me suis mis de chum avec, puis Francine aussi. Et puis, à un moment donné, lui, le soir, il donnait des petites études bibliques. Fait que là, il dit, « Danny, tu ne pourrais pas faire une étude biblique demain soir? » J'avais parlé de ma foi, peut-être ça. Je dis, « Ben oui, pas de problème. » Fait que pendant 5 ou 6 soirs, c'est moi qui donnais l'étude biblique à ces gens-là, tu sais, là, la parole de Dieu, des inconvertis. Et puis un soir, elle demandait à Francine si elle ne pourrait pas conduire dans la louange. Fait que là, on rentre dans une vieille église de pierre là, qui datait des années 800. Là. Il faisait froid, c'était sombre, il y avait des chandelles. Vous connaissez l'odeur, vous connaissez l'ambiance. Et Francine, toute pétillante, « Levons-nous, louons le Seigneur, moi j'ai décidé de suivre Jésus, moi j'ai décidé de suivre Jésus. » Là, c'était comme vous autres, là, c'était tranquille, à un moment donné, whop, il y en a un qui s'est levé, whop, un autre qui s'est levé, puis whop, un autre qui s'est levé. Puis c'est devenu notre chanson thème quand on partait les matins. L'homme religieux qui était avec nous disait, « Hey, Francine, tu ne voudrais pas nous accompagner avec ton chant? Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. » Et on a fait ça. Et on a pu partager, évidemment, notre foi avec ces gens-là, bien que nous, on ne le faisait pas pour un pèlerinage religieux, si on peut dire. Paul, dans son épître aux Éphésiens, nous parle de l'importance de bien se préparer si on veut se rendre jusqu'au bout de notre pèlerinage parce qu'on a un ennemi qui veut nous stopper dans notre élan. Il nous dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et lors de ma préparation, de mon périple, de mon voyage, j'ai été rappelé de l'importance de bien se préparer. » D'avoir le bon équipement. Paul nous parle dans son épître dans des termes de marcheur longue distance, on peut dire, lorsqu'il nous dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile ». L'Évangile de paix, c'est vrai que ça nous donne un zèle, c'est vrai que ça nous motive, mais il faut que ce soit le bon Évangile, l'Évangile de Jésus-Christ qui nous permet d'avancer et de persévérer. Es-tu en train de nous dire qu'il y a un autre Évangile? Moi, non. Paul, oui. Il nous dit dans 2 Corinthiens 11:4, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. » Aux Galates, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Il y a plusieurs évangiles, tout comme il y a plusieurs chaussures de marche. Et évidemment, lorsqu'on veut marcher sur une longue distance, il est primordial de posséder une bonne paire de chaussures. Oh, on peut avoir, je vais en amener quelques styles, on peut avoir des chaussures économiques. Hein? Le type de chaussure-là, il y a une couple d'avantages. Il est économique, il ne coûte pas grand-chose. Par contre, il procure un faux sens de confort. Lorsqu'il est neuf, ça va, mais ça ne dure pas trop. On le trouve partout, dans les grandes surfaces, en boutique sport, etc. Par contre, il est peu résistant. Il ne résiste pas à la pluie. Il use rapidement. J'ai mis ça un été, puis c'est déjà déchiré. Il devient rapidement inconfortable. Puis ça me fait vraiment penser à un évangile économique, pour ne pas dire un évangile écuménique. Économique, écuménique, ça se ressemble. Ce type de chaussure ou ce type d'évangile a une couple d'avantages. Un, il est universaliste. Selon cet évangile, tous iront au paradis. Tous, c'est pas cher. Tous, sauf peut-être Hitler. Là. Il est économique, donc il ne coûte pas grand-chose. Il ne demande pas de sacrifice. Il ne demande pas de renoncement à soi. C'est la grâce abondante et déréglée. « Vis comme tu veux, car selon cet évangile, tous vont à la même place. » On le trouve partout, toutes les religions du monde l'enseignent. Par contre, cet évangile-là, pas trop résistant. Les vents de doctrine arrivent et les emportent. Lorsque la vie devient rocailleuse, pas fameux, il ne protège pas du mal ni du malin. Il ne résiste pas aux intempéries de la vie, cet évangile-là. Elle n'offre aucun support. Déverse le pied, c'est pas long, tu marches tout croche. Aucun repère, il n'y a pas de base, c'est cheap. Et il devient rapidement, cet évangile-là, inconfortable. On peut avoir aussi d'autres types de chaussures. On peut avoir des chaussures haute performance. Ces chaussures sont raffinées. Elles sont performantes, performantes dans un bureau. Celui qui les porte a pour promesse de gagner la course de ce monde. Ça chaîne, ça paraît bien, une belle surface, richesse, prospérité, guérison instantanée, tout est à votre portée. Il suffit de porter ses chaussures. Par contre, ces chaussures, elles sont vraiment inconfortables. Fait beaucoup de bruit, particulièrement sur le bois franc. Clac, 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 clac. C'est un petit brin agaçante. Vraiment, dans les sentiers difficiles, complètement inutile. Comme l'évangile de prospérité. Il n'a qu'une seule réponse. Mets les chaussures! Mets les chaussures! Mets les chaussures! Mets les chaussures! Crois, 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 puis ça va bien aller. Crois, tu vas devenir riche. Crois! « Envoie-moi 1 000 $, puis tu vas être bien. » Et ces chaussures ne résistent pas à la pluie. Vraiment, elles sont comme l'évangile de prospérité. C'est un évangile qui ne marche pas pour ceux qui vivent dans les pays défavorisés. C'est drôle, hein? Les pays défavorisés, quand même, qui m'enverraient 1 000 $, ils ne vont pas devenir riches demain matin. Là. L'évangile de prospérité ne marche pas dans les pays défavorisés. En plus, c'est un évangile qui culpabilise ceux qui sont en manque parce que c'est de leur faute, ils n'ont pas eu assez de foi. S'il y avait plus de foi, ils seraient bien, ils manqueraient de rien. Un évangile qui manipule ses ouailles à croire, leur faisant croire qu'à force de croire, ils finiront par voir et par recevoir. Et lorsqu'ils n'auront pas reçu, parce qu'ils n'auront supposément pas assez cru, eh bien, eux non plus, on ne les reverra plus. C'est un évangile pyramidal. C'est un évangile qui chatouille les oreilles. C'est un évangile qui plaît à notre chair. Mais c'est un évangile récent, occidental, qui a pour but l'accumulation de trésors visibles plutôt que l'accumulation de richesses invisibles que ni la rouille ni la teigne ne peuvent atteindre. Amen. On peut avoir des chaussures qui semblent bonnes, mais finalement, il y a un autre problème avec ces chaussures, et je les ai testées. Elles sont un petit brin trop étroites. Ces chaussures sont quand même résistantes. Elles sont confortables pour un bout de temps. Par contre, sur une longue distance, elles deviennent inconfortables. Elles sont trop serrées. Voyez-vous ici la courbe, là? Ça vire trop vite. Fait que là, tes orteils viennent coincer, puis ça finit par blesser, puis tu saignes, puis ça fait mal. Trop serrée. Elle finit par blesser parce qu'elle est trop étroite. De plus, elle ne respire pas. Le pied finit par étouffer. En cas de pluie, elle ne protège pas. Vraiment, cette chaussure-là, quand je la regarde, ça me rappelle l'évangile légaliste. Hein? Un évangile qui est sûr, mais qui finit par étouffer. Un évangile qui est trop étroit. Oh, ne goûte pas, ne touche pas, ne mange pas, vis pauvrement, crève. Un évangile qui tente de contrôler ce que Christ a pourtant libéré. Un évangile qui contrôle les ouailles à coups de versets bibliques sans grâce ni compassion. Un évangile qui peut peut-être nous mener à destination, mais non sans blessure, à soi et à ceux qui nous entourent. Et lorsqu'il pleut, on lui dit tout simplement, « Arrange-toi avec tes troubles, tu avais juste à éviter la pluie. » Tu avais juste à mieux te chausser. Finalement, on peut avoir des chaussures sur mesure. Ça, c'est une chaussure équilibrée. Elle est la bonne longueur pour moi. Elle est la bonne largeur pour moi. Elle protège de la pluie, elle est imperméable. Et elle respire. Donc, quand je marche des longues distances, la respiration, ça sort. Elle absorbe bien les chocs parce qu'elle est épaisse du talon. Donc, ça évite les mal de dos. Et avec la bonne chaussure, je me suis rendu à destination. J'ai marché 400 km avec ces chaussures, avec certains défis, oui, avec certaines blessures, pas vraiment, mais avec l'assurance que ce que je porte, c'était le meilleur pour moi. Cette chaussure me rappelle vraiment le vrai évangile. L'évangile de l'apôtre Paul, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile équilibré, un équilibre entre la prière et l'action, Un évangile entre la foi et le gros bon sens. Un évangile entre le spirituel et on n'oublie pas qu'on vit dans un monde naturel. On est encore sur terre. Un évangile équilibré entre la loi et la grâce. Un évangile équilibré entre amour de Dieu et justice de Dieu. Un évangile qui prêche l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et qui réalise que l'un ne peut exister sans l'autre et que c'est le même Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu n'a pas changé de caractère, il est le même et on le voit dans toute l'histoire biblique. Un évangile entre le plan de Dieu pour ma vie, tout en réalisant que ma vie, ultimement, est pour son plan à lui et non le mien, puisque le plan que Dieu a pour moi, c'est de mourir afin que lui puisse vivre à travers ma vie. Un évangile qui est équilibré. Un évangile entre « je suis au service de Dieu » ou « Dieu est à mon service ». Il y a malheureusement plusieurs évangiles dans notre société moderne. Mais rappelons-nous qu'il y a le seul et vrai évangile, l'évangile de paix. Le vrai évangile est le suivant, et on le lit dans 2 Timothée 1, verset 8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Oui, l'Évangile parfois nous fait souffrir. L'Évangile, c'est souffrant parce que ça implique la mort à nous-mêmes, la mort à notre chair. Au verset 9, il nous dit « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, un appel saint, non à cause de nos œuvres, mais selon son dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par grâce en Jésus-Christ. Le verset 10 nous dit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Jésus a vaincu la mort, nous accordant ainsi l'immortalité. Et c'est ça le vrai évangile, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et toute personne qui prend un avantage de ce que Dieu a fait pour nous et qui en fait le focus de sa vie, manque le bateau. Ce n'est pas un évangile équilibré. Il nous dit au verset 11, « C'est pour cet évangile, le salut en Jésus-Christ, que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. » C'est ça le vrai évangile. Et comme la bonne paire de chaussures va nous permettre de nous rendre à destination, le bon évangile, le vrai évangile du salut en Jésus-Christ, et ce qui va nous rendre à destination. Amen. J'ai mis beaucoup d'emphase sur les chaussures parce que ce sont elles qui nous permettent de marcher. Ce sont elles qui nous permettent de nous rendre à destination. Et c'est le vrai évangile qui va nous maintenir jusqu'à la fin. Toutes les autres évangiles, on le voit. Pourquoi des gens, souvent, joignent l'Église, quittent l'Église, joignent l'Église, quittent l'Église? Ils se sont accrochés. Ils sont venus au Seigneur pour les mauvaises raisons. On vient au Seigneur pour le salut en Jésus-Christ. Pas pour qu'il me guérisse, pas pour qu'il me rende riche. Tant mieux s'il le fait. Tant mieux s'il me guérit. Mais même s'il ne le fait pas, même si je perdais tout demain matin, je demeure sauvé en Jésus-Christ. Et c'est cette vérité-là à laquelle je dois m'accrocher, parce que même si Jésus ne ferait plus rien d'autre pour moi, il a déjà fait beaucoup. Il a déjà fait beaucoup. Et si on attire les gens par la guérison, on va les perdre, mais que c'est pas guéri. Si on attire les gens par la prospérité, on va les perdre, mais qu'ils demeurent pauvres. Mais si on les attire en leur disant qu'ils ont besoin de Jésus-Christ comme sauveur, peu importe les tempêtes, s'ils ont vraiment saisi le salut en Jésus-Christ, ils vont demeurer malgré les tempêtes. L'autre élément qui est très important pendant un pèlerinage comme ceci, et je ne les ai pas mis en ordre du verset, mais pour moi, c'est important, ce sont les lunettes. Y a-t-il de l'air assez cool avec ses lunettes? Les lunettes pour protéger les yeux. Nos yeux doivent être protégés car ils nous permettent de voir le chemin à prendre si on ne veut pas s'écarter. De même, nos yeux sur notre marche spirituelle dirigent nos pas. Vous ne me croyez pas? Ecclésiaste le dit, 11:9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et vas-y selon tes regards, selon tes regards, selon tes yeux. Mais sache que si tu fais ça, Dieu va t'appeler en jugement. Psaume 101, 3 nous dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Du côté positif, Psaume 16, 8 nous dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Et Psaume 25, 15 nous dit « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. » Job 31, 6, 8 « Que Dieu me pèse dans des balances justes, il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à moi et que je sème qu'un autre moissonne et que mes rejetons soient déracinés. » Donc, faut que notre cœur suive nos yeux si nos yeux sont sur l'Éternel. Mais si nos yeux sont ailleurs que sur l'Éternel, c'est le chemin qu'on va prendre. C'est important de se protéger les yeux pour voir le chemin. Parce que des fois, le soleil est trop fort, il nous aveugle, on perd la vue. Mais on doit toujours avoir le discernement spirituel pour voir le chemin que Dieu veut que l'on emprunte. La ceinture. Éphésiens 6, 14 nous dit « Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Pourquoi la vérité? Je vais vous le dire en termes bien pleins. Sans ceinture, tu vas finir par te faire déculotter. Le mensonge finit toujours par nous faire honte. Tu vas être déculotté. C'est pour ça qu'il faut marcher dans la vérité. Et pendant mon pèlerinage, j'étais avec un ami. Puis à un moment donné, soit on arrivait, on lavait notre linge, nos culottes courtes, on mettait ça sur la corde à linge. Puis le lendemain, je pars avec mon sac, etc. Le soir, j'arrive pour changer de culotte et puis ma paire de culottes. Bon! J'ai oublié ma paire de culottes au dernier refuge, à la dernière place qu'on a couché. Deux jours après, mon chum qui était avec moi, il n'avait pas de ceinture, puis il avait de la misère à garder ses culottes. Quand je vous dis, là, quand tu ne marches pas dans la vérité, là, tu te fais déculotter. Là. Savez-vous quoi? C'est lui qui avait mes culottes. Ils avaient pris sa corde à linge. Puis là, ce qui est le plus fou, c'est qu'on est allé s'acheter chacune ceinture. Puis lui, ben là, il avait besoin d'une ceinture. Il dit, je comprends pas. Il dit, j'ai dû maigrir pendant notre marche. Il dit, mes culottes sont rendues trop grandes. Alors, regarde ces culottes. C'est pas tes culottes, c'est mes culottes. Ils peuvent bien être grandes, t'es la moitié de ma taille. Un Corinthiens 13, 4 nous dit, la charité est patiente, mais elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais la charité ou l'amour, elle se réjouit de la vérité. Et c'est comme j'ai dit tantôt, la chose la plus importante, c'est être à la recherche de la vérité. Moi, je ne veux pas avoir raison dans la vie. Je ne veux pas avoir raison dans la vie. Montre-moi que je suis dans l'erreur puis que tu m'emmènes vers une trail différente qui me montre la vérité, je vais la suivre. Et ça, c'est un monsieur que je suis qui est chrétien, c'est un ancien enquêteur criminel. Laisse toujours les évidences te conduire à la vérité. Laisse les évidences te conduire à la vérité. Suis les évidences. Pendant ton enquête, là, ce que tu trouves, là, laisse-les te conduire à la vérité. Et ça doit être ça, notre poursuite à nous. Pas poursuivre le bonheur, pas avoir raison, surtout pas avec ta femme, c'est pas, ça ne marchera pas. Il faut poursuivre la vérité. Je suis dur, ces femmes. Hein? Les hommes, on est têtus aussi, là. Je suis conscient. Là. Mais il est possible de perdre la vérité. Jacques 5,19 nous le dit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. La vérité, qu'est-ce qu'il faut réaliser aussi? C'est une personne. C'est Jésus-Christ, la vérité. Fait que lorsqu'on dit la vérité, on fait honneur à Jésus-Christ, on parle de Jésus-Christ parce qu'il est vérité. Il est la vérité médicale, il est la vérité mathématique, il est la vérité religieuse, il est la vérité en tout. C'est pour ça qu'on dit que Dieu guérit parfois de façon miraculeuse, mais si le médecin a une procédure véridique, qui fonctionne, qui est vraie, ben la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Et dans l'année dernière, à l'église à Rimouski, notre thème, c'était « Je marcherai dans la vérité ». On a été à la quête de la vérité. On ne veut pas avoir raison dans nos convictions, surtout après 30 ans de vie chrétienne. Tu veux avoir raison. Non! C'est quoi la vérité? C'est ça qui est important. L'autre élément important, pendant une marche longue distance, ça prend un casque. Check bien ça. Hey! Il est-tu prêt, le gars? Le casque, vraiment, c'est bon qu'il soit visible. Hey, flashy, hein? Orange, il est visible de loin. Même affaire pour notre salut, là. Il faut qu'il soit visible. Si les autres ne réalisent pas qu'on a le salut en Jésus-Christ, il y a de quoi qui ne va pas, là. C'est comme je disais, partagé à midi à table. T'sais. En toute occasion, favorable ou non, partage l'Évangile et si nécessaire, parle. Notre salut doit être visible par nos actions, par notre façon de parler. On ne doit pas le cacher, notre salut. Puis le salut, il nous protège des traits enflammés du soleil. Surtout moi, avec ma belle chevelure. Je n'ai pas grand-chose pour me protéger des rayons du soleil. Ça brûle vite. Ça me prend un casque. Un casque sur mesure, tout comme le salut. Il est unique à chaque personne. Chaque personne a une histoire du salut qui est différente. Lui, il est vraiment léger. Léger, puis il respire aussi. Il faut que ça évacue la surchauffe, tout comme le salut nous aide à évacuer lorsque la vie surchauffe, comme notre sœur a témoigné. Il y a évidemment le bouclier de la foi, mais je ne vais pas élaborer sur celui-là, mais notre foi, évidemment, a de tête en Jésus-Christ. Et la foi, ce n'est pas nécessairement... La foi, ce que les gens ne comprennent pas, souvent, je ne pointe pas personne, je dis ça généralement, ce que les gens ne comprennent pas par rapport à la foi, c'est qu'ils pensent que la foi, c'est de croire dans l'impossible. Mais la foi, vraiment, la vraie foi, qu'est-ce que c'est? C'est mettre notre confiance dans des certitudes, dans la vérité. Moi, que je mets ma confiance dans la parole de Dieu, je mets ma confiance dans une certitude. Je ne mets pas ma confiance dans quelque chose qui n'a pas arrivé, là. C'est arrivé, là. C'est arrivé la mort et la résurrection de Jésus. Mais il y en a qui pensent que la foi, c'est faut que tu croies. Crois, crois. Ouais, crois plus fort. Plus fort, tu n'as pas cru assez fort. Non. Il y a même une église en Californie dernièrement, il y a un leader de jeunesse qui a perdu son enfant. Pendant 5 semaines, ils ont prié pour que l'enfant ressuscite. Pas la foi, ça. C'est la folie. C'est la folie. Il est mort. Ça fait 5 semaines. Faites votre deuil, pensez à autre chose. C'est pas ça, la foi. C'est pas ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et souvent, quand je suis venu au Seigneur dans les premières années, on me disait, « Danny, t'es trop rationnel. Tu penses trop. Tu es un gars de chiffres, toi, tu penses trop. Mais ça de côté, est la foi. Mais la foi dans quoi? Dans... Ça va arriver. » Puis dans ma vie, j'ai eu des crises de foi. Ça m'est arrivé là, que j'ai mis en doute ma foi. Là. Mais savez-vous qu'est-ce qui m'a ramené ou gardé? C'est pas de m'asseoir sur le divan et dire « j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois ». Non, elle a été fouillée. Elle a été fouillée dans l'histoire, fouillée dans l'archéologie. Aller voir différents témoignages, différents théologiens. C'est quoi les évidences qu'on a? La parole de Dieu, c'est-tu vraiment vrai? Puis une fois qu'on a une tête de fait, on met sa foi là-dedans. Je ne comprends pas tout. Puis oui, ça peut arriver que Dieu nous guérisse de façon miraculeuse. Mais ça peut arriver aussi qu'il ne nous guérisse pas de façon miraculeuse. Qu'arrivera-t-il à notre foi? Est-ce qu'elle va demeurer? Elle devrait. Parce que notre foi n'est pas dans la guérison, mais notre foi est en celui qui guérit. Il y a aussi la cuirasse de la justice. Il y a évidemment l'épée de la parole de Dieu, qui est très importante. Mais il y a une chose à travers tout ça qui est bien importante aussi, que j'emmenais avec moi, c'est le sac à dos. Hey! Check-moi voir ça. Le gars, il n'est-il pas équipé? Un sac à dos. Ça, c'est bien important aussi. C'est ici. Attache à la taille. Puis ça, là, ça moule le corps, hein? Ça tient, ça fait partie de ton corps. Hein? Puis vraiment, là, ça représente ça, notre vie. Hein? Puis on est tous sur un pèlerinage sur cette terre, puis quand on vient au Seigneur, là, tout ce qu'il y a dans notre sac, là, on le prend, puis on le vide. On fait le ménage, on vide le sac. On est tous légers. Merci Seigneur, tu m'as pardonné, tu m'as libéré, je flotte. Alléluia, on est léger, on se sent léger. Malheureusement, au cours de notre pèlerinage, on a tendance à le remplir de choses inutiles. Je n'ai pas pensé, je voulais m'emmener un poids haltère de 20 livres et le mettre là-dedans. C'est que tu fais avec un poids haltère, 20 livres dans ton sac à dos pour aller marcher 400 km. Exactement. 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 Qu'est-ce qu'on met dans notre sac? Puis pourquoi qu'on garde ça dans notre sac? La jalousie, la haine, le manque de pardon, les blessures du passé. Reste là, moi je les emmène, les aime, mes blessures. Tout ça ajoute un poids à notre vie. Mais ce qu'on doit faire, on doit faire ce qui est à notre portée pour maintenir le poids léger. Pardonner. Confession régulière de nos fautes à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore scrappé ça. Pardonne-moi, Seigneur. Garde pas ça dans le sac. T'as de quoi avec ton conjoint, ta conjointe, chérie? Si je m'écoutais, je ne t'appellerais pas chérie, le Red Esther, là. Chérie, je te demande pardon pour la façon que je t'ai parlé. Les blessures du passé. Puis pas pour piquer sur la jante féminine, mais des fois, les jantes féminines, ils ont des petits tiroirs qu'ils en mettent dedans. Puis de temps en temps, ils ouvrent les tiroirs, puis as-tu vu qu'est-ce qu'ils sont, le gars, gars. T'as encore ça là, toi? Oui, mais ça fait 20 ans. Oui, je le sais, mais c'est encore là. Non, libérons, vidons. Puis les hommes aussi ont fait ça des fois. Mais il faut garder ce sac léger. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés pour que le sac soit léger. Parce que notre poids doit être léger, sinon on va arriver à l'autre bout brûlé. Quand on marche une longue distance, il ne recommande pas plus que 10 % de ton poids. Fait que si tu pèses 200 livres, 20 livres max. Tu peux en emmener 25 la première année. Francine, vous connaissez, tout le temps peine à ranger, fait ses bagages. OK, mais Francine, tu pèses 135 livres, tu as le doigt à 13,5 livres. OK, pas de problème. Fais ses bagages, pèse ça, 30 livres. Oh boy! On enlève encore un peu, 24 livres. Mais là, moi, je la laisse baisser un petit peu avant que je dise, bien, chérie, si tu en as un peu de trop, je suis correct, j'en prendrai quelques items. Mais si j'avais dit ça du début, elle m'allait tout transférer tout de suite, là. Fait qu'il fallait que j'y donne l'opportunité de faire du triage avant de me montrer généreux à son égard et lui offrir mon aide. Mais elle est quand même partie avec 23 livres trop pesants, mettons, là, tu sais, là. Fait que moi, j'étais pas pire, là. Puis à un moment donné, bien là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'elle a continué à marcher. Mais à un moment donné, quand c'est trop pesant dans ta vie, sais-tu ce qui arrive? Là, tu commences à avoir des blessures, là. Tu as des ampoules de pied, tu commences à saigner. Puis là, bien là, tu ralentis tout le monde parce que là, il faut que tu ralentisses. Tu commences à te plaindre parce que tu es blessé. Puis une personne blessée, qu'est-ce que ça fait? Ça blesse les autres. Puis là, tout d'un coup, bien là, il fallait qu'elle marche quasiment sur les côtés de pied. Tous les pieds bandés avec les ampoules. Monsieur, bien lui, il fallait qu'il fasse son bout. Une fois qu'il avait fait son bout, il fallait qu'il retourne ramener le sac de madame puis qu'il revienne avec le sac de madame pour y relever son poids parce que madame était blessée. Fait que quand on en a trop dans notre sac, on impacte les autres autour de nous aussi. Donc, il faut garder le sac aussi vide que possible. Puis Dieu, dans sa parole, il nous donne des moyens de garder notre sac léger. Amen. Ça vous aide-tu? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour cette soirée, Seigneur. Merci pour les armes de Dieu que tu nous donnes. Merci, premièrement, pour ton évangile. Le vrai évangile, l'évangile du salut en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour toutes les autres armes que tu mets à notre disposition, la vérité, le bouclier de la foi Seigneur, le zèle que nous donne l'évangile, les chaussures que l'on porte, la ceinture de la vérité, l'épée Seigneur de ta parole Seigneur. Merci Jésus, merci pour tous ces outils et surtout Seigneur, rappelle-nous l'importance de garder notre sac vide, Seigneur. Et merci pour l'opportunité que nous avons de marcher sur ce pèlerinage et qu'un jour nous arriverons à destination, non pas à cause du tombeau plein, mais à cause du tombeau qui est vide. Merci Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de bénir chaque personne dans ce lieu ce soir. Accorde-le ta grâce, ta bénédiction, ta guérison, ta paix, Seigneur Dieu. Ceux qui ont besoin de pardonner, qu'ils puissent pardonner. Ceux qui ont besoin de confesser, qu'ils puissent confesser et qu'ils puissent marcher dans ce pèlerinage avec de bonnes chaussures, munis d'un sac à dos léger, Seigneur. Et surveille nos yeux, Seigneur, et merci pour le casque du salut. Dans le nom puissant de Jésus, tous ont dit Amen. Amen.